Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur La Fesse, la fabrique de l'ESS, première émission sur l'économie sociale et solidaire dans les Alpes de Haute-Provence sur Fréquence Mistral à Digne-les-Bains 99.3. Alors aujourd'hui, nous recevons Swann Fauveau avec qui on va discuter pendant une heure de ce qu'elle fait, de son métier, de son implication dans ce secteur. Mais avant de démarrer notre traditionnel édito, l'actualité est chargée, on va dire. Donc, comme vous le savez, depuis hier soir, on n'a plus de gouvernement. Voilà. Donc ça m'a inspiré un peu ce matin de ce petit édito qui est le suivant. Dans le paysage politique français actuel, l'attention s'est récemment tournée vers la motion de censure déposée à l'Assemblée nationale, un événement qui reflète les tensions et les désaccords au sein de notre système politique. Dans un climat de défiance et de polarisation, l'ESS peut inspirer une nouvelle approche de la gouvernance, plus inclusive et participative. En intégrant les principes de l'ESS dans les politiques publiques, la France a l'opportunité de se réinventer et de proposer un modèle de développement résilient, capable de répondre aux aspirations de ses citoyens et citoyennes. Ce contexte offre une opportunité unique pour réfléchir à des alternatives économiques, sociales, capables de répondre aux défis contemporains, parmi lesquels l'ESS se distingue par sa pertinence et son potentiel transformateur. Elle promeut des initiatives qui favorisent l'autonomie des communautés locales et encouragent la participation citoyenne, des éléments cruciaux pour restaurer la confiance de nos institutions. Alors que nous naviguons dans des eaux politiques tumultueuses, il est crucial de ne pas perdre de vue les valeurs fondamentales qui peuvent nous guider vers un avenir plus équitable. Par son engagement, l'ESS envers le bien commun ouvre une voie prometteuse pour réconcilier les citoyens et les citoyennes avec leurs institutions et construire une société plus juste et solidaire. Voilà. Juste avant de démarrer, Swann, comme ça, à chaud, quel est ton sentiment par rapport à notre toute fraîche actualité politique?
Ben, en tout cas, moi, je trouve ça, à premier abord, un peu inquiétant, cette nouvelle incertitude politique.
Avec le départ du Premier ministre et après, de l'espoir aussi de se dire est-ce que ça pourra rebattre les quatre en faveur justement des organisations de l'ESS qui avaient vu des coupes budgétaires importantes, notamment en termes de solidarité internationale pour les financements aux ONG et aussi pour les coopératives et l'économie sociale et solidaire plus largement. Donc voilà, j'espère que le nouveau gouvernement sera plus intéressant à ce niveau-là et tiendra plus compte de l'impact de ce secteur et de ce qu'il peut porter en termes de nouvelle économie et de nouvelle solidarité.
Eh bien, l'avenir nous le dira. A priori, normalement, c'est censé être rapide. On verra bien ce qui va se passer dans les prochaines heures. Donc, avant de lancer la première virgule, je te rappelle le principe de l'émission. On a une émission qui est décomposée en trois morceaux. Donc, une première partie pour parler plus des structures, des associations, des coopératives avec qui tu peux travailler. Tu vas nous expliquer tout ça. Ensuite, on parlera de ton métier. Et puis, on aura une dernière partie pour parler un peu plus de toi, avec ce traditionnel petit portrait chinois. Et à chaque fois, entre chaque partie, on a des petites musiques que tu nous as préparées, que tu nous présenteras. Donc ces musiques, je le rappelle, c'est soit parce que ça parle de toi, soit parce que ça parle de ton histoire, soit parce que tout simplement tu les aimes bien, et c'est tout, et c'est déjà largement suffisant. Donc est-ce que tu as des questions avant qu'on démarre ?
Non, simplement te remercier de me recevoir, Pascal, c'est chouette.
Eh bien, avec plaisir, et c'est parti pour la première virgule et la première partie. Alors, Swann, est-ce que tu peux me dire, déjà en fait, par la spécificité de ton métier, parce que tu es consultante en ESS, donc voilà, tu n'appartiens pas à une structure, enfin tu vas nous expliquer tout ça, avec quel type donc de structure, dans quel secteur, toi, tu travailles, dans quel domaine exactement ?
Écoute, ça fait, à la base, ça faisait à peu près 15 ans que je travaillais dans l'économie sociale et solidaire, surtout pour des organisations non gouvernementales à l'étranger et en France. Puis ensuite pour des coopératives, ici d'ailleurs sur le territoire, pour Énergétique 04. Et en fait, après ces 15 ans de travail, on va dire plutôt comme responsable de structure et comme des fonctions plutôt de direction, j'ai décidé, en étant basée à Digne avec ma famille, de me mettre à mon compte en tant que consultante. Et ça fait 5 ans que je fais ce métier. Donc depuis 5 ans, j'accompagne des structures de l'ESS, asso, coopératives, sur tout ce qui est question de management d'équipe, de la gestion des ressources humaines et aussi de la question de les organisations, des choix qu'elles font en organisation. Si tu veux une diversité de ma semaine dernière, j'ai animé des classes virtuelles avec des travailleurs humanitaires basée majoritairement en Afrique, donc sur la question justement du management. Ensuite, j'ai animé une formation de gestion de projet avec une association qui travaille sur l'interprétariat à Paris et qui aide des personnes qui arrivent en France à démêler leurs difficultés administratives. Et puis, il peut m'arriver voilà, d'animer des ateliers, notamment avec la plateforme Initiative ici, pour l'incubation de projets d'entrepreneuriat. Donc voilà, c'est des semaines qui ne se ressemblent pas, mais dont le fil conducteur est vraiment d'accompagner les organisations et les personnes à développer un projet qui est en alignement avec leurs valeurs. Et dans l'ESS, sur tout ce qui est thème du management et de l'organisation, c'est vraiment d'arriver à faire s'aligner les valeurs de ces structures avec leurs pratiques internes en termes de management et d'organisation. C'est pas toujours simple parce qu'elles sont soumises à plein de contraintes, ces organisations, on y reviendra.
Ok. Et d'un point de vue territorial, ça peut être ici au niveau local ou un petit peu partout. Tu peux être international aussi.
Mais... Oui, je travaille. J'aimerais travailler 100% ici, mais aujourd'hui c'est pas encore le cas. Je travaille aussi en région parisienne. J'ai des structures pour lesquelles j'interviens en région parisienne, et il m'arrive aussi de faire des missions à l'étranger pour accompagner des projets d'inclusion et d'insertion de personnes éloignées de l'emploi, notamment à Madagascar. Voilà. Mais la majorité de mon activité est entre Paris et les Alpes de Haute-Provence.
Ok, d'accord, c'est pas mal.
Oui, okay. Ouais, ouais. Si on aime se déplacer, c'est pas mal.
Voilà, c'est ça, donc voilà, hein, faut aimer le bus, mais c'est bien le bus, hein. Franchement, t'es calé, quoi, ça prend un peu de temps, quoi, c'est tout, il faut aimer la lecture, n'allez pas avoir le mal de bus, voilà, pardon.
Tout à fait.
Tout à fait, hein. Sinon, toi, on va dire, quels sont les principes, on va dire, qui guident un petit peu tes interventions, tes modes opératoires à peu près?
Oui, quand on est consultant, en fait, c'est un peu, on a une forme d'identité, un petit peu d'accompagnement qui nous spécifie, qui fait que les gens y font appel à nous. Et moi, si je les résume, c'est vraiment d'abord de partir de ce que les gens vont m'amener et des besoins qu'ils ont, vraiment d'avoir un dialogue sur la demande qu'ils ou elles peuvent avoir en termes, voilà, bah, j'ai une crise que je traverse sur la gestion de ressources humaines. Voilà, comment je peux vous aider, sur quoi on travaille pour résoudre ça. Ça peut être aussi sur les questions d'organisation, d'optimisation du travail, de crise de modèle financier. Donc c'est partir de ce que les gens amènent et essayer de les accompagner là où c'est vraiment utile pour eux. Et dans les points qui sont aussi importants pour moi, souvent j'interviens un peu dans des situations d'urgence. C'est de ne pas être dans le jugement de la situation dans laquelle j'interviens, parce que les associations, si elles se retrouvent là, c'est qu'il y a eu beaucoup de facteurs internes, mais souvent aussi externes. C'est plutôt de trouver des solutions rapides et utiles pour elles, sans jugement et en toute bienveillance. Et sans la partie galvaudée du terme de bienveillance, vraiment voilà, de travailler en soutien et en accompagnement.
Ok. Donc de l'appui conseil? Des outils?
Oui, de la formation, de l'appui conseil. Moi-même, j'ai une supervision de ma pratique en tant qu'intervenante, parce que ça me paraît extrêmement importante. Donc une fois tous les deux mois, je suis dans un groupe avec d'autres consultants sur lesquels on amène des situations qui nous-mêmes nous posent question dans nos interventions. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment du sur-mesure très qualitatif, enfin autant que possible. Et l'importance du coup, ça va être de faire une alliance avec mon commanditaire ou ma commanditaire, qui sont souvent des directeurs d'associations, de coopératives, ou en formation plutôt des responsables de service, voilà, dans le médico-social aussi, et d'être vraiment dans une relation de confiance qui va permettre aux personnes de réfléchir aux changements qu'elles veulent mettre en œuvre et dans leur management, dans leur pratique, pour que ça puisse être au service de l'association, de la coopérative derrière.
Et toi, tu as un secteur qui t'anime plus qu'un autre, ou tu as du mal à choisir, justement, tu aimes bien être multiforme?
Moi, j'ai mes premiers amours, c'est les ONG, et c'est l'endroit où je prends le plus de plaisir. Voilà, la semaine dernière, quand ils me racontaient leurs problèmes, enfin, j'avais des stagiaires qui étaient en République démocratique du Congo, dont les équipes s'étaient fait attaquer... la nuit, il y a plusieurs factions, une grosse instabilité politique, et le courage que ces personnes ont sur le terrain et l'engagement qu'ils ont me résonne beaucoup pour moi. Et ouais, j'adore être en contact avec ces acteurs-là.
Mais donc, eux, concrètement, ils t'appellent parce qu'ils ont vécu une situation hyper difficile? Et toi, tu joues un rôle quoi, d'écoute là, à ce moment-là,
c'est... Oui, alors moi, je suis dans une formation. On a rendez-vous toutes les semaines pour parler de management pendant une demi-journée avec des gens de toute l'Afrique. Et ils démarrent la classe virtuelle en disant « Moi, la nuit dernière, on s'est fait braquer dans notre 4x4 en arrivant dans un village. » Donc, ils déposent leurs valises et on prend ce temps-là avant de parler d'objectifs smart, d'assertivité, de feedback constructif. Et l'un n'empêche pas l'autre, en fait.
Ouais.
En fait, ils vivent dans l'urgence, mais à la fois, ils ont besoin d'outils et de méthodes pour faciliter leur communication au sein de leurs équipes et voilà, améliorer l'ambiance de l'équipe et être des bons managers dans des contextes qui sont parfois très compliqués.
Mais justement, tout à l'heure, tu parlais de bienveillance pas galvaudée. Qu'est-ce que tu veux dire exactement par rapport à ce terme qui, effectivement, peut sembler galvaudé?
Eh bien, la bienveillance, pour moi, dans l'ESS, hein, mais même dans d'autres secteurs professionnels, c'est vraiment être capable à la fois de regarder de manière positive une situation, tout en étant capable de dire à un collègue ou une collègue, ou même à un directeur ou une directrice, ce qui fonctionne et ce qui pourrait être amélioré avec les bons termes et dans une logique, finalement, de progression. Donc, ce n'est pas la bienveillance où on ferme les yeux, on accepte tout,
okay.
Ce qu'on peut parfois voir dans l'ESS et qui porte préjudice aussi aux structures, mais vraiment de se dire les choses tranquillement et simplement dans l'idée de progresser ensemble.
D'accord, merci pour cette précision. Je pense que c'est intéressant parce que c'est un terme qui est très très utilisé, mais pas que dans l'ESS effectivement. C'est bien de mettre des précisions derrière des mots chapeaux aussi gros. Swan, quels sont les impacts à ton avis de tes actions pour toi, par rapport à ce que tu fais?
Alors, les impacts, alors quand on est dans un boulot de consultante, je pense que tu es un peu au courant aussi. C'est pas toujours simple de voir son impact, mais moi, je les vois quand, par exemple, je vois des managers, justement, sur différents jours de formation qui prennent conscience incroyablement de ce qu'ils font bien et des choses qui doivent changer vis-à-vis de leurs équipes. Et quand ils reviennent en formation après une intercession, qu'ils nous disent « bah oui, j'ai essayé ça, j'ai mis en place ça, ça s'est apaisé avec telle personne », je me dis « bah oui, là, j'ai vraiment de l'impact quand je leur amène des clés pour regarder leurs équipes et se comporter peut-être différemment ». Pour moi, ce n'est pas inné, hein, le management, ça s'apprend et ça se met au travail. Un autre impact, c'est voilà, quand j'accompagne une directrice de structure à Paris dans son organisation et que j'arrive à ce qu'elle ait une discussion ouverte avec son adjointe avec qui c'est très compliqué, il y a du conflit, bah pour mettre les pieds dans le plat et se dire bah, est-ce qu'on continue ou pas ensemble, est-ce que tu veux faire autre chose, arriver à ce que les gens aient parfois des discussions qui sont difficiles au sein de leurs équipes et mettre en place ce que moi j'appelle du courage managérial, qui n'est pas toujours facile, qui est arriver voilà, à poser les choses, y compris quand c'est compliqué, bah, pour avancer au bénéfice de sa relation avec l'autre et de la structure dans laquelle on est. Quoi.
Ouais, ça va dire non quand c'est un...
Oui.
Ouais, pas avoir peur.
Oui.
Oui, c'est nécessaire.
Oui.
Ouais. Trop facile de ne pas pouvoir... Des fois, plus difficile de ne pas dire, c'est reculer pour mieux sauter, quoi, un peu.
Oui, et ça crée des situations dans des équipes ou dans des structures qui peuvent devenir humainement extrêmement compliquées. Après, c'est humain.
Tout à fait. Donc, s'il y a des managers et des managers qui nous écoutent, bon conseil, il faut dire les choses, c'est mieux. Franchement, c'est mieux. Je suis sûr qu'il y a des gens qui savent très bien de quoi Swan est en train de nous parler. Dis donc, Swan, t'as ramené une première musique. Alors, c'est laquelle? On va passer ces meutes, c'est ça?
Oui, une musique festive que j'aime bien, même en soirée, qui est sympa, qui est festive, pour changer de l'ambiance de ce matin.
Allez, on commence la journée par une petite fanfare électro. Allez, c'est parti. Thank you. C'est parti, on y est. De retour sur la fesse 99.3 sur Fréquence Mistral à Digne-les-Bains, avec Swann Fauveau qui maintenant, dans cette deuxième partie, va nous parler de son métier. Alors déjà Swann, donc tu es consultante en ESS, c'est l'intitulé qui te donne ton métier ou tu peux en parler autrement ?
Oui, je suis consultante et formatrice et je tiens aussi à cette partie de formation parce que je me suis certifiée comme formatrice, donc avec voilà, une certification vraiment sur l'ingénierie pédagogique et l'animation de formation. Et j'utilise les deux approches, hein, vraiment conseil et formation dans, voilà, dans mes interventions auprès des assos.
Et donc c'est quoi ? C'est du 50-50 ? Tu fais autant de conseils que de formation
ou... À peu près, ouais. Ouais, à peu près, ouais, c'est ça, c'est 50-50. Et la formation, je fais beaucoup sur management, gestion de projet, un peu qualité de vie et des conditions de travail aussi. Et j'interviens aussi à Dauphine, là, dans un diplôme universitaire pour des gérants de SCOP et de SIC. Donc ça peut aussi m'amener à être dans le secteur universitaire, même si c'est marginal, je suis beaucoup plus sur de la formation professionnelle.
Alors, est-ce que tu peux réexpliquer très très rapidement la différence entre une SCOP et une SIC ?
Ah, oui, une SCOP, c'est donc une structure dont seuls les salariés peuvent être coopérateurs, actionnaires. Une SIC, ça va inclure en plus ce qu'on appelle souvent les bénéficiaires ou usagers, en tout cas du service de la SIC, et les partenaires économiques. Voilà, donc ça élargit la gouvernance, voilà, plus, c'est ça, ça élargit
donc
la gouvernance.
En gros, des entreprises, institutions publiques, j'imagine.
Oui, c'est ça, collectivités, voilà, entreprises privées, ça va vraiment dépendre de l'objet de la SIC. Après, le principe reste le même, une part dans la SCOP ou la SIC, une voix, c'est vraiment le partage du pouvoir dans tous les cas, avec l'idée de porter collectivement un projet économique.
Ok, d'accord. Et donc, tes missions principales, tu en as un petit peu parlé quand tu parlais un peu des structures avec qui tu travaillais, mais donc j'imagine que c'est extrêmement divers, tu as un éventail d'externalités très très large.
Oui, oui, et c'est marrant parce que c'est un peu ça qui m'a aidé à définir finalement mon offre, c'est plus pourquoi mes clients sont venus me voir finalement. Et ce que je réalise, c'est que souvent, les structures viennent me voir dans des situations de difficulté, ça c'est parce que je peux être réactive. Et aussi, j'ai beaucoup, en travaillant aussi à l'étranger, fait un peu de la gestion de crise, notamment quand je vivais en Haïti, où on avait des contextes sécuritaires et puis on a eu un ouragan. J'étais responsable d'une ONG là-bas. Et j'ai affronté des situations qui nécessitent la prise de décision rapide et un peu un état des lieux, un diagnostic un peu éclair de la situation. Et ça, c'est quelque chose que mes clients peuvent venir chercher chez moi sur des sujets très variés comme la gestion des ressources humaines, l'état financier de la structure, par exemple.
Ok, d'accord.
Et après, j'ai des choses au plus long cours de formation, où là, je travaille en partenariat avec une coopérative qui s'appelle Transfer, une SIC justement, dont je suis aussi co-gérante, mais j'en parlerai moins ici peut-être parce que ça mélange pas mal les casquettes. Mais en tout cas, je suis partenaire de cette coopérative pour des formations au long cours, avec des associations nationales qui travaillent dans le médico-social. Mais j'ai pu aussi travailler ici, dans le médico-social, ici, pour Transfer, donc c'est assez intéressant, sur de la formation.
Mais quand tu dis au long cours, c'est quoi, combien de temps à peu près ?
C'est des formations courtes, c'est quelques jours, mais en général, on les programme à l'avance pour que les participants puissent être dispo. C'est un peu moins dans l'urgence, on va dire, ce type d'intervention.
Ok, d'accord. Parce que ouais, comme ce que tu disais un peu avant, ça fait un peu quoi, cauchemar en assaut ou en COP, quoi. T'arrives dans des endroits où c'est très compliqué, il faut tout remettre vite, vite, vite.
Oui, ça peut être un contexte d'intervention. Et ce que je trouve, c'est que malheureusement, c'est un contexte qu'on voit de plus en plus, mais pas que moi dans mon activité. C'est-à-dire que c'est un secteur qui est quand même soumis à des pressions fortes de par la baisse des financements publics, qui sont... Je ne sais pas si vous avez vu là le Centre d'information des droits des femmes et des familles qui est soumis à la prime Ségur et donc qui se retrouve à devoir payer du jour au lendemain des indemnités à ses salariés. Hein. Donc la Fédération nationale a lancé une cotisation pour ça. Enfin, il y a des choix politiques qui sont faits qui impactent fortement les associations et qui les mettent dans des difficultés fortes qui se retraduisent dans l'humain, dans les finances,
Ok, et justement, parlons de ça. Toi, t'en penses quoi du contexte en ce moment du secteur ?
Moi, ce que je sens au niveau des structures, c'est que c'est de plus en plus compliqué. Du coup, ça implique pour les salariés parfois de changer un peu de métier ou de faire évoluer leur métier pour aller chercher plus de fonds, diversifier les fonds, parfois aller plus vers des fonds privés. Ça leur demande de faire autant avec moins de moyens et ça, c'est extrêmement démotivant. Dans le médico-social, on voit aussi la difficulté de plus en plus qu'ont les structures qui sont en sous-effectif, parce que c'est aussi des métiers que je trouve qui sont souvent, enfin pas que moi en fait, c'est dit, qui sont moins attractifs. Donc il y a aussi tout un problème de recrutement qui touche l'économie sociale et solidaire, qui fait que les personnes qui recrutent sont soumises au desiderata des personnes qui veulent bien travailler pour elles. Donc il y a plein de choses dans le contexte du travail, dans les financements, qui font que je trouve que c'est un métier qui devient dur et qui demande aux managers beaucoup de se réinventer par rapport à ça, quoi. Donc avec du turnover beaucoup plus fort, avec de la recherche de financement qui s'intensifie et qui j'espère sera pris en compte dans le prochain gouvernement ou en tout cas on aura des meilleures nouvelles qu'aujourd'hui.
On le souhaite aussi. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu détestes faire dans ton métier, que t'aimes pas du tout?
L'administratif, parce que quand on fait de la formation, malheureusement il faut en faire et donc c'est toujours une tannée.
Et c'est quoi,
faire des feuilles d'émargement, faire un bilan pédagogique, faire des factures aussi, des notes de frais quand je me déplace, toutes les choses pas intéressantes que du coup je me retrouve à faire à 22h parce que c'est vraiment un truc qui m'intéresse pas. Tout en disant au manager que j'accompagne, il faut pas travailler après 20h.
Tout à fait. C'est très logique tout ça, mais c'est bien normal. C'est vrai que c'est relou, de faire des... Je te rejoins dans ce truc, moi aussi je le fais. Pas comme il faut et trop tardivement. Inversement, qu'est-ce qui te plaît le plus ?
Ce qui me plaît, c'est quand je vois que ce que je fais, ça a de l'impact. C'est vraiment, c'est ça. Enfin, moi, j'en ai un peu parlé déjà. Et puis, les valeurs que je trouve au niveau de l'ESS, le niveau d'engagement des personnes avec qui je travaille, ça me régale. J'ai une petite histoire qui me vient là la semaine dernière quand j'étais à Paris, donc avec cette association d'interprétariat. Donc, des chefs de service, on part au resto le midi pour déjeuner et on arrive dans un resto italien. Il y a un serveur sri-lankais qui vient nous voir et une des chefs de service commence à lui parler en tamoul et échange avec lui en tamoul et commande en tamoul. Du coup, il nous dit qu'il vient de se marier, il nous offre des cafés à la fin et en fait, j'apprends qu'elle, avant d'être chef de service dans le recrutement, elle était interprète et elle a des origines sri-lankaises et du coup, c'est ça quoi, tout d'un coup, ça a créé un lien avec ce serveur qui était super et c'est ce que ça porte l'ESS, c'est ça quoi, des gens extra qui font du lien et du coup, ça enclenche des super attitudes quoi.
L'humain quoi.
Ouais, l'aspect humain. Et le lien qu'on crée en 2 minutes dans un resto, parce que tout d'un coup, on va parler la langue de l'autre. Et ça, pour moi, c'est vraiment ce que fait cet asso et ce que peut faire l'ESS. Des passerelles.
Mais techniquement, il y a des choses, toi, que tu préfères faire. Tu dis, voilà, tu donnes des conseils, la formation. Il y a des choses là-dedans que tu te dis, ça, quand même, je m'y sens plus à l'aise.
Moi, j'aime bien quand ça change. En fait, je me rends compte que je fais des choses qui évoluent tout le temps. Mais c'est vrai que j'aime bien la formation et j'aime bien faciliter, animer des ateliers formatifs ou d'accompagnement. Voilà, je travaille avec l'association Initiative ici dans les Alpes-de-Haute-Provence. Et j'anime des ateliers d'incubation de projets dans un programme qui s'appelle Incube. Je pense que tu avais reçu déjà les collègues d'Initiative qui travaillaient dessus. Et c'est un régal de voir des jeunes entrepreneurs qui arrivent avec leurs projets. Et voilà, ce qu'ils portent. Et puis tout d'un coup, on se rend compte qu'ils ont ouvert leur commerce à Digne ou ailleurs. Et c'est hyper satisfaisant, je trouve, de voir ça, quoi, de les avoir vus avancer grâce à l'accompagnement de la plateforme et un tout petit peu l'atelier qu'ils ont vécu avec moi 2 jours sur leur idée de projet, leur business model Canva, etc.
Quand tu dis un tout petit peu, tu penses que quoi, c'est une petite pierre ou
Oui, c'est une petite pierre d'un accompagnement plus large qui est porté par Initiative, mais c'est une pierre.
Ok, d'accord. Donc tu apportes quand même ta pierre. Est-ce que ce projet Incube, pour le coup, on n'a pas encore parlé ici? C'est un espace d'incubation de projets d'entreprise, c'est ça?
Oui, ouais, ouais. Qui aide les personnes qui sont au stade plus de l'idée du projet. Où c'est des espaces où ça va demander particulièrement de l'écoute et de la bienveillance, parce qu'il y a des projets de toutes sortes. Peut-être certains qui ne verront pas le jour, mais d'autres qui vont jusqu'au bout. Et c'est des ateliers que j'anime pour eux, qui sont super intéressants sur amener et développer son idée de projet. Le magasin de bonbons qui a ouvert devant le Collège Borély, c'est un des projets qui est passé dans Incube, et je trouve ça assez chouette.
Et je crois que ça fonctionne bien.
Oui.
Je crois que c'est une sacrée idée d'ouvrir un magasin de bonbons en face d'un collège.
Tout à fait.
Franchement, ouais. Bien joué. Et puis ça va faire marcher le commerce des dentistes. Et ça, c'est quand même génial. Alors, à chaque fois que je pose cette question, je me dis, elle est débile, mais je continue de la poser. Parce que personne ne me répond positivement. T'as une journée type ou pas? Est-ce que c'est possible pour toi, dans ton activité, d'avoir une journée type?
Non, j'ai une semaine type, où je vais préparer des interventions, animer, faire des bilans, c'est plus ça. Une semaine type plus qu'une journée type.
Et dans ta semaine type, t'as des déplacements tout le temps?
J'ai une fois tout par mois, je me déplace, en général à Paris, un peu à Marseille aussi.
D'accord, et les déplacements, tu disais que tu pars ponctuellement à l'étranger?
Moi en ce moment, mais j'ai répondu à un appel d'offres là, qui pourrait peut-être me permettre de repartir, on verra.
Où ça? On a le droit de savoir?
Dans 12 pays différents, Asie du Sud-Est, en Afrique, donc on verra.
Ok, d'accord. Bon, on croise les doigts alors.
Oui.
Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, dans ta semaine type, tu as plein de choses qui te... Tu peux vraiment la dupliquer cette semaine ou on va dire que le cadre de ton métier qui est de consultant, qui est d'être sur vraiment plusieurs thématiques en même temps, fait qu'en fait, tu adores le changement, ça ne va pas te changer.
Oui, c'est le contenu qui va changer. La semaine, elle est un peu récurrente parce que je travaille sur des rapports que je dois faire, je prépare des animations, mais les contenus des animations, les profils des publics, les thèmes sur lesquels je travaille, eux vont changer.
Et donc tu parlais un peu du contexte tout à l'heure là, des assos, de l'ESS, qui est quand même compliqué. Qu'est-ce que tu peux nous dire toi sur l'état de santé mentale peut-être des militants, salariés, des assos qui... Parce que c'est quelque chose des fois qu'on... Enfin, on en a déjà un petit peu reparlé. On en a parlé la dernière fois là, avec notre dernière invitée là sur à Fleur de Pierre sur,
oui,
avec Gwen. On pourrait croire que ça va pas fort, que les gens sont à la niaque, mais toi t'en vois bah, plein un peu partout ici puis sur d'autres territoires. Tu les sens comment les gens?
Alors moi, le public que je vois le plus finalement, c'est plutôt les managers aujourd'hui, hein, des chefs de service dans l'ESS ou des directeurs ou directrices. Bah, c'est des personnes qui sont un peu en première ligne parce qu'elles doivent à la fois répercuter ce que le CA va leur dire, leur conseil d'administration va leur dire et ménager les membres de leurs équipes. Et en fait, c'est des vocations bah, dans l'ESS qu'on sent qui existent moins parfois. C'est-à-dire que quand on voit le paquet d'emmerdes, passez-moi l'expression, qu'on se retrouve avec un poste pareil par rapport à le temps de travail, la rémunération, bah, je pense que ça questionne les personnes. Donc ces managers-là, ceux qui restent, je les trouve très courageux. Et voilà, selon les situations, quand même relativement engagés, mais fortement pressurisés, quoi. En tout cas, en termes de résultats, de turnover de leurs équipes. Après, c'est une généralité, ça va beaucoup dépendre des secteurs, donc c'est difficile de généraliser.
Et tu trouves qu'il y a des secteurs qui sont plus en difficulté que d'autres?
Oui, le médico-social. Le ouais. médico-social. C'est des secteurs qui vraiment morflent parce que le contexte de financement et de recrutement est très compliqué. Ouais. Alors que c'est une action extraordinaire au service de personnes âgées, personnes handicapées, voilà, au service de l'enfance. Mais c'est des métiers qui sont difficiles aussi.
Oui, bah parce que... comment dire? Une implication physique et affective est hyper importante.
Oui.
Et puis, très peu d'évolution peut-être aussi, oui, comme tu disais, financière.
Oui, en tout cas, ça, c'est assez courageux de prendre des postes à responsabilité dans ces structures, moi, je pense. Et les personnes que je vois en formation font comme elles peuvent et au mieux, mais sont souvent des personnes de bonne volonté et qui font comme elles peuvent.
Voilà, en tout cas, comme on le dit à chaque fois, et c'est aussi un peu l'objet de cette émission, de mettre en avant l'ESS plus parce qu'elle provoque que parce qu'elle fait, même si l'idée c'était de pouvoir donner un visage concret à ce que cet acteur-là, c'est vraiment voilà, des métiers qui sont absolument nécessaires si on veut que notre société tourne correctement, de surcroît dans un monde plus juste et solidaire, hein, ça sera encore mieux. Mais voilà, on en parle un peu régulièrement ici, c'est un secteur qui a des besoins pour fonctionner et... Et c'est important qu'il soit entendu par nos élus, à différentes échelles de notre société, hein, que ce soit au niveau très local et puis même au niveau national. Là, on est dans un contexte qui est plus difficile. On sait que, en fait, en gros, de ce que je comprends, moi, de ma petite place, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'argent et qu'il faut répartir correctement notre budget, que c'est compliqué de le faire. Bon, voilà, il y a des besoins, ils sont réels. Et toi, Swan, donc, tu les vois tous les jours par l'action que tu fais. Et merci beaucoup pour ça. Et t'es venu avec une deuxième chanson. Alors, c'est laquelle, la deuxième?
La deuxième, c'est une chanson qui s'appelle « La mer est calme » de Ben Mazuet et Louane. Et c'est une chanson qui a été écrite, en fait, par un copain. Enfin, en grande partie écrite par un copain de mon frère que je connais aussi et que j'aime bien. Donc voilà, j'avais envie de lui faire une dédicace à Vincha.
Ah, super. Merci beaucoup.
De nous deux, amoureux, qui baillera le premier, qui se jettera le dernier à flot, qui boudra, qui sera le saoulé, qui effacera la craie du tableau, et qui croira encore que tout ça vaut le coup, qui cherchera des poux invisibles, qui de nous, amoureux, reprendra ses flèches pour les lancer sur une autre cible.
La mer est calme, je la regarde et j'attends les remous, les grandes lames et les hallebardes qui emportent tout. Qui emporte tout. De nous deux amoureux, lequel connaîtra d'abord la paresse des caresses, se jettera alors dans des discours sans fin, se noyant sous quelques prétextes, qui tombera de haut, se tordra les boyaux, qui sera la première des victimes. Lequel de nous deux amoureux prépare en secret le grand crime? La mer est calme, je la regarde. J'attends les remous, grande lame. Qui emporte tout, qui emporte tout.
Qui craquera le premier,
qui sera l'imbécile,
et qui un soir d'été fera tout éclater. Qui craquera le dernier, qui sera l'amnésique,
qui au fil des années pourra tout oublier,
qui pourra pardonner. Et puis l'éponge passée après quelques années, et les épaules tassées, qui dira c'est assez,
qui aura le courage d'avouer que tout ça n'était qu'un grand mirage.
La mer calme, je la regarde. Et j'attends les remous, les grandes larmes.
Qui emporte,
et les alabas.
Qui emporte tout,
qui emporte tout,
qui emporte,
qui emporte tout, qui emporte.
De retour sur la fesse pour la troisième et dernière partie avec Swann Fauveau. On va parler un peu plus de toi, Swann. Quel est ton parcours? Qu'est-ce que tu as fait avant d'être consultante?
J'ai travaillé à l'étranger, notamment au Cambodge, et puis ensuite en Haïti, mais bien plus tard, pour des ONG. Et puis j'ai aussi travaillé pour une coopérative, j'en parlais je crois tout à l'heure, Énergétique 04, qui est ici. Donc voilà, j'ai fait tout un parcours justement dans cette fameuse économie sociale et solidaire, et je me rendais compte en venant ici que je ne connais pas le monde professionnel
autre.
Et en fait, c'est vraiment une particularité. Bon, on est nombreux, je pense, dans ce cas-là. C'est compliqué, je pense, quand on est rentré dans ce secteur, d'aller ailleurs après, parce que c'est un peu comme un cocooning. Enfin, c'est en alignement aussi avec ses valeurs. Mais voilà, j'ai eu des postes de direction assez rapidement et je me suis spécialisée là-dessus. Et c'est aussi ce qui fait que je peux conseiller d'autres personnes en situation de direction. C'est que moi-même, j'ai vécu ça dans mes différentes expériences. Et souvent, c'est ce que les personnes avec qui je travaille apprécient, c'est que je peux amener aussi des éléments de ce que moi, j'ai vécu en tant que directrice de structure.
Ok. Et au niveau de tes études, tu as fait un...
Et je suis ingénieure agro.
Ok.
Et voilà, c'est un peu souvent dans la solidarité internationale, on en retrouve pas mal.
Ouais, donc tu rentres par le côté ingénieur agro pour avoir un investissement dans une ONG et après tu te
Exactement.
Convertis à l'ESS, quoi.
Et après, j'ai refait une formation à Dauphine, justement un diplôme universitaire pour des gérants de scope et de cycle, où j'ai appris, on va dire, plus la gestion économique et financière d'une structure, qu'elle soit ou pas ESS. Et ça a été extrêmement formateur, et c'est ce que je vois parfois qui peut un peu manquer dans les structures de l'économie sociale et solidaire, cette dimension vraiment stratégie d'entreprise, financement, gestion de trésorerie, gestion de prévisionnel, qui est aussi extrêmement important et qu'on apprend souvent sur le tas quand on est en poste de responsabilité dans l'ESS.
Eh ben, ok, super. Alors, donc, tu as un profil complet et puis un parcours, ouais, comme tu disais, avant d'être consultante assez riche dans le milieu de l'ESS. On arrive... Je crois, mon moment préféré de cette émission, le portrait chinois. Alors, je le rappelle, c'est quand même tout simple. Hein, c'est si vous étiez, je sais pas moi, une fleur, quelle fleur seriez-vous ? Une marguerite, parce que si, parce que ça. Voilà, donc là j'ai préparé un petit portrait sur moi pour Swan, qui va peut-être nous dévoiler son profil psychologique et affectif. On fait pas, on sait pas, on va voir. Donc elle l'a préparé ou pas, mais en tout cas si elle ne l'a pas préparé, c'est pas grave. Faut que ça soit, ça peut être spontané aussi. Donc Swan, première question, si tu étais un champignon, quel champignon serais-tu ?
Ah bah je serais une chanterelle, parce que...
Et pourquoi ?
On en a beaucoup ramassé cette année, parce que c'est un champignon qui a du goût, qui a une jolie couleur. Et donc j'aime bien.
Voilà. Petite recette préférée avec...
Ah, le risotto.
Le risotto de chanterelle.
Ah oui.
C'est vrai que c'est pas mal.
On en mange depuis un mois énormément.
Ok, et si tu étais un moyen de transport ?
Eh ben, je crois que je serais un vélo, mais un vélo électrique, parce que ben, c'est, à la fois c'est un moyen de déplacement écologique et à la fois un peu du moindre effort, et ça je pense que ça me résume bien. L'écologie à effort relatif.
Pas mal, c'est vrai que c'est quand même pas mal. Hein. Une fois, c'est pareil, c'est une fois que tu as commencé le vélo électrique, tu as du mal à repasser derrière. Quand même.
C'est ça, mais si ça évite de prendre la voiture, c'est bien.
Oui, carrément. Et si tu étais un objet dans une cuisine ?
Ah, je crois que je serais une cafetière, parce que je carbure toute la journée au café. Et voilà, avec la densité de ce que je dois faire toute la journée, c'est le café qui me parle.
Ok, ok, ok. Et une activité sportive ?
Le rugby.
Tu serais le rugby, hein ? Ok.
Ouais.
Pourquoi ?
Bah parce que c'est un sport, je trouve, qui véhicule, au moins dans le rugby amateur, quelque chose autour de valeurs de solidarité, de voilà, d'esprit d'équipe qui me parle. C'est vraiment un sport qui reflète, je trouve, bien ce que j'ai envie de porter en tant que consultante. Quoi.
Et t'as fait du rugby ou pas ?
Oui.
Ok, d'accord.
Y compris à Digne-les-Bains, d'ailleurs.
Y compris à Digne-les-Bains. Voilà, spéciale dédicace au RCD.
Tout à fait.
Alors, les questions qui reviennent maintenant, que je reprends à chaque fois parce que je la trouve marrante, en plus c'est d'actualité. Alors, si tu pouvais être ministre, quel ministère ? Et tu peux inventer ton ministère, Swan, si tu veux.
Eh ben oui, moi je crois que je serais le ministère du vivre ensemble, parce que je trouve que c'est vraiment ce qui nous manque en ce moment, quoi. Hein. C'est ces clivages un peu qu'on trouve politiques, entre communautés, entre conceptions de la vie, créent du fossé et créent, je trouve, énormément de tensions. Et c'est ça que j'aimerais remettre au travail. Hein. Le okay. Vivre ensemble, voilà, dans une ville, dans une structure, dans un pays. Même si on parle de ministère de la solidarité et tout, je trouve que voilà, ça, c'est vraiment ça ce qui
devrait bouger. Il serait un ministère, en tout cas, il ne serait pas un secrétaire d'État attaché.
Exactement.
Ok, un vrai
Exactement.
Ministère du vivre ensemble.
Qui retravaille sur les bases d'une société solidaire avant d'envisager autre chose.
Ok, eh ben, joli programme. J'espère que Manu, si tu nous entends, ça te donnera des idées. Et si tu étais une forme géométrique ?
Bah, je crois que je serais un rond, parce que voilà, quelque chose autour de... qui reflète justement la bienveillance, enfin le côté, la rondeur de ce que j'essaye d'amener dans mes accompagnements et mes formations.
Ok, faudrait qu'on fasse un petit tableau de stats, parce que je pense que le cercle rond revient très souvent. Oui, peut-être que... Est-ce que tu penses que l'horizontalité est quelque chose qui est assez transversal aux personnes qui travaillent dans l'ESS ?
Oui, la question d'une vision plus collective où chacun a sa voix à apporter au projet, que ce soit en tant que bénévole ou en tant que salarié dans une structure. Oui, moi, j'y crois sincèrement. Et quand on parle de management en formation, on n'est pas du tout dans des visions descendantes. On est plus dans un rôle de management qui est coordonner, animer, faciliter une équipe pour que chacun donne le meilleur de soi dans cette équipe et pas donner une direction, impulser, enfin voilà, d'être dans quelque chose qui est assez horizontal, ouais.
Et pour toi, justement, enfin, est-ce que l'horizontalité, c'est un concept ou c'est des méthodes ou les deux ?
Alors, c'est les deux. C'est les deux. Ça marche pas quand ce ne sont que des concepts. On l'a vu beaucoup, je trouve, avec la sociocratie. On a sorti des outils à tout va sans vérifier que les gens avaient envie de faire ça, ni que les gens avaient les bonnes postures pour le faire. Donc pour moi, c'est à la fois des bons concepts et des outils, mais aussi les postures et l'envie des personnes dans les structures de le faire. Quand vous arrivez dans une structure et que vous voulez mettre en place de l'horizontalité, de la gouvernance partagée, si une grande majorité de l'équipe ne souhaite pas ça, ça ne fonctionne pas et ça crée de l'insécurité. Et quand vous le faites, ça nécessite vraiment de le faire avec soin et de réadapter et réajuster régulièrement pour que ça fonctionne.
Et pour toi, c'est nécessaire? Je veux dire, ou justement, comme tu dis, bah, ça dépend juste des équipes, des concepts, et qu'il ne faut pas que ça soit...
Oui, ça peut, pour moi, ça ne peut pas être dogmatique. Par contre, c'est beaucoup plus puissant, des structures où on est en co-direction. Moi, à Transfert, dont je suis gérante, on est deux, on est co-gérante, en horizontalité à deux, mais on a des sociétaires aussi collectifs. Et en fait, toute la prise de décision, quand elle est lieu à deux ou à plus, elle est beaucoup plus puissante et elle est beaucoup plus rassurante aussi par rapport à l'isolement qu'on peut connaître quand on prend des décisions seules dans des directions de structure plus classiques, quoi. Donc oui, pour moi, la co-décision, elle est extrêmement intéressante. Les systèmes où on partage le pouvoir, c'est vraiment l'avenir. À condition que ce soit bien fait, que ce soit pas juste décrété.
Voilà, donc on le rappelle, hein, des concepts et des outils, voilà, parce que c'est pas un claquement de doigts en disant voilà, on va prendre des décisions horizontales. Il y a des méthodes, il y a des outils, il y a des formations pour ça, il y a des gens qui sont spécialistes de ça. Swan, par exemple, est un bon exemple. Donc si vous avez des envies d'horizontalité structurelle et fonctionnelle et de gouvernance dans vos structures, et ben voilà, renseignez-vous, il y a des acteurs sur le territoire qui peuvent vous former à ça, et c'est pas un petit appui, je pense que c'est nécessaire, c'est primordial, quoi, sinon ça marche pas, quoi.
Tout à fait.
Est-ce que toi, dans ton parcours, dans tout ce que tu as fait aujourd'hui, il y a quand même une expérience qui a été plus marquante qu'une autre, quelque chose qui marque pour toi, un engagement dans ce secteur?
Oui, je crois que c'est... Il y a deux choses. Quand j'ai été chef de mission en Haïti pendant 2 ans, là, sur un contexte de travail qui était extrêmement difficile, où ça a été une expérience hyper enrichissante, vraiment de... Je suis arrivée dans une ONG qui n'avait plus trop de projets, il fallait retrouver des financements. Il y avait toute une équipe qui était un peu démobilisée, et j'ai fait un peu ce qu'on appelle du management de transition, où j'ai vraiment remis d'équerre la structure dans un contexte où on s'est pris l'ouragan Matthew, on a eu une agression sur un projet à l'arme, par quelqu'un d'armée qui a tiré sur des collègues. Donc on a eu tout ce qu'on peut imaginer. J'ai eu un procès d'une ancienne administratrice pour... Donc on a eu tout ce qu'on peut imaginer de pire dans un contexte humanitaire, et avec l'équipe en place, on l'a traversé, on a fait évoluer la structure, on a regagné des projets, des financements, et en repartant au bout de 2 ans, la structure était remise en place, et pour moi c'est un vrai succès, ouais, c'est quelque chose de marquant dans mon parcours.
Ok, et ça t'a... Enfin, tu dirais que c'est enrichissant, en fait, de vivre des moments de difficulté?
Oui, je pense que c'est ça. C'est un peu ce qui m'a marqué. C'est que moi, je trouve que c'est dans la difficulté que les gens peuvent révéler le meilleur d'eux-mêmes. Et moi, c'est ce qui m'a parlé dans cette expérience. Après, je ferais pas ça. Enfin, ça a été 2 ans extrêmement intenses. Je ferais pas ça tout le temps. Mais oui, ça a été extrêmement formateur pour moi. Ça a été intéressant pour les collègues haïtiens avec qui on a traversé ça ensemble. Ouais, c'était chouette.
Ok. Et... question, parce que moi, quand on me la pose, j'ai du mal à y répondre. Si tes enfants te demandent ce que tu fais comme métier, t'es capable de répondre quoi?
Alors, elles se plaignent régulièrement, mes filles, de ne pas réussir à trop dire ce que fait ni son père ni moi, parce qu'on fait un peu les mêmes métiers. Moi, je leur dis souvent que j'interviens dans des associations pour aider les personnes à mieux travailler ensemble, et je fais de la formation. Et ça, elles comprennent à peu près. Mais okay. C'est difficile.
Tout à fait. Pour la petite histoire, c'est la graine de cette émission. Hein. C'est que moi, j'étais incapable de pouvoir expliquer à mes enfants ce que je fais. Ils ne comprennent pas. Mais ce n'est pas grave. Parce que oui, vous l'aurez peut-être compris, parce que je suis aussi consultant dans l'ESS. Voilà. C'est effectivement pas simple à expliquer, parce que c'est une nébuleuse de petites actions qui s'agglomèrent. Et c'est pour ça qu'en gros, on a fait cette émission à Fréquence Mistral, pour essayer de donner un visage hyper concret à travers des personnes, des actions, des histoires à ce qu'est l'ESS, plutôt que de donner un titre, parce qu'en fait, c'est plus intéressant comme ça. Voilà. Et ben, on va doucement aller vers la fin de l'émission, tranquillement. On va passer à l'agenda. Est-ce que toi, Swan, t'as des choses à nous annoncer?
Oui, moi je voulais en profiter pour annoncer que j'organisais et j'animais une formation justement de management pour qui s'appelle Manager dans l'ESS à Marseille les 25, 26 et 27 février dans les locaux de l'Union régionale des SCOP et des SIC justement, qui est ouverte à toutes les personnes en situation de management, en association, en coopérative, dans le médico-social, pour les ONG. Voilà, on a une promo qui est en partie constituée pour l'instant avec des ONG et peut-être une association Indigne aussi qui enverrait des managers. Et voilà, les inscriptions sont toujours ouvertes. Vous trouverez l'information sur le site de Transfer qui s'écrit Transfer RH. Et voilà, ou en prenant mon nom pardon, sur LinkedIn, vous retrouverez aussi l'information.
Bon, de toute façon, je pense qu'on pourra le laisser en lien sur la page du site web de la radio pour reprendre le podcast de l'émission, comme ça vous aurez l'information. Mais en tout cas, voilà, merci pour cette info, Swan. Autre information, agenda, aujourd'hui à Gap se déroule un concours de pitch par le réseau initiative sur le territoire. Je crois que ce concours s'appelle Sur les routes de l'entrepreneuriat, qui englobe notamment, mais pas exclusivement, des projets autour de l'ESS. Donc, vous tapez ça sur votre moteur de recherche Internet sur les routes d'entrepreneuriat du réseau Initiative. Vous pouvez aller voter pour 8 projets. Voilà. Et donc, ce soir, à Gap, c'est les 8 lauréats de ce projet vont pitcher pendant 2 minutes leur projet. Et donc, il y a 3 prix. Il y a un prix du public, un prix donc des votes sur Internet et un prix du jury. Donc voilà, moi je vous invite à aller voter sur ces pages parce que je crois qu'il y a des projets hyper intéressants qui y sont développés.
Hein. Oui, je crois que tu fais partie des lauréats, Pascal.
Voilà, c'est ça, exactement. Donc voilà, je ne vous dis pas. Voter en toute honnêteté, transparence et tout ça. En tout cas, voilà, ce qui est cool, en tant que lauréat. Bah, c'est sympa de participer à ça parce que ça permet de mettre en avant vraiment plein d'initiatives très différentes. Ça parle d'agriculture, ça parle de consommation responsable, ça parle d'égalité homme-femme, ça parle de plein de choses. Donc c'est plutôt chouette, quoi. Donc au moins, voilà, allez sur le site, vous pouvez mettre ça en avant. Et autre partie agenda, lundi à 23h sur France 3, vous pouvez regarder... un documentaire qui s'appelle Au top ou presque, qui donc retrace les 4 ans donc de 2020 à 2024 de l'association des potes of the top, qui aujourd'hui est une SIC, en plus on a bien précisé ce que c'était, et ça vous permet voilà de regarder où est-ce qu'on est ce projet, et si vous voulez avoir un peu plus de le making of de ce qui s'est passé jusqu'à ce que ça en est maintenant, ben voilà, je vous invite à regarder ce documentaire, c'est sur France 3 le 9 à 23h. Et ben voilà, on en arrive à la fin tranquillement de cette émission. Est-ce que tu as un petit mot pour la fin ? Ben non, t'es pas obligé.
Non, juste te remercier en tout cas d'avoir créé cet espace d'échange que je trouve toujours intéressant pour parler de son métier. Merci pour ça.
Eh bien, de rien. Normalement, si j'avais été un bon élève, je vous aurais annoncé le prochain invité. Mais en toute honnêteté, je ne sais pas encore qui c'est. Donc, ce sera début janvier, ça c'est sûr et certain. Voilà, entre-temps, je vais à tout le monde souhaiter de super bonnes fêtes, de bien profiter de vos amis et de vos familles. Dans cette période que, voilà, on a dit au début, qui peut paraître tumultueuse, compliquée, dans une instabilité assez incroyable, parce que c'est vrai que quand on regarde un peu la situation politique, on pourrait avoir peur. Les marchés, apparemment, ont un peu peur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Franchement, j'en sais rien. En tout cas, voilà, on a des beaux temps à passer entre nous, entre amis. On peut en profiter. Il y a plein d'initiatives qui vont se faire. Donc, je ne vous souhaite que ça. Et Swan, tu as préparé une dernière chanson pour qu'on puisse se quitter ?
Oui. Une chanson acoustique, Revolver, je crois, dont j'aime bien le rythme.
Très bien. Eh ben, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée sur Fréquence Mistral, 99.3 à Digne-les-Bains. Et je vous dis à l'année prochaine.
Merci.
Merci.
Et on remercie chaleureusement Pascal Jeanne pour son émission tout au long de l'année 2024, parce que c'est quand même tous les mois, hein, à part la petite coupure de l'été, on a eu bien pratiquement une dizaine d'émissions.
Exactement.
Donc merci et à l'année prochaine.
Merci beaucoup et bonne année.
Allez, on se quitte avec Parallel Lives de Revolver.
We are living parallel lives. We don't know about each other. We're in love with the same girl, but one of us has never met her. We don't see the same shows. We both grew up by ourselves, but we can feel the same trouble, 'cause we just live in parallel lives. We are drawing parallel lines. The parallel lines never cross. No, don't think much about. Getting used to being lost. You and me, writing lines, doing the same thing each and every night. The same dreams, the same lies. And I wish and I hope, wish and I hope so.
I want you to catch me.